du 7 juillet au 30 juillet, retrouvez toute l'actualité du Festival d'Avignon avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose.
Osmose. La web radio du Hop.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Osmose dans la couleur des planches. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pièce Camille contre Claudel, une pièce d'Hélène Zidi avec Hélène Zidi et Lola Zidi à 17h15 au Théâtre du Roi René. Bonjour Hélène Zidi.
Bonjour.
Et merci bonjour Lola Zidi.
Bonjour.
Alors vous êtes mère et fille dans la vie réelle et ici dans Camille Claudel, vous vous dédoublez pour interpréter la brillante sculptrice. La jeunesse se retrouve à affronter la vieillesse et vous nous emportez dans un combat qui est à la fois artistique parce que c'est une femme qui essaye de trouver une place et de la reconnaissance aussi au sein d'une société patriarcale. Mais c'est aussi un combat intime, à savoir celui de s'émanciper d'Auguste Rodin qui était son mentor et qu'elle aima jusqu'à la folie. Sur scène, vos deux corps s'animent, ils s'aiment, on peut même dire qu'ils se confrontent et qu'ils se confondent. Lola Zidi, vous tournoyez au son des lettres de Rodin, qui sont lues en voix off avec la voix ténébreuse de Gérard Depardieu. La cerise sur le gâteau, c'est la scénographie qui est vraiment sublime. Alors la salle de la Reine est déjà une salle magnifique, mais là elle l'est d'autant plus, car vous l'avez transformée en un atelier qui foisonne de sculptures en pleine création. Alors Hélène Zidi, comment vous est venue l'inspiration et l'attirance pour Camille Claudel qui a fini ses jours à Avignon ?
Alors d'abord je voulais écrire depuis des années sur Camille Claudel, mais je ne voulais pas le faire tant que je n'avais pas trouvé vraiment mon propos, c'est-à-dire l'angle d'attaque de la pièce. Et un jour, je regardais ma fille qui au même me ressemble beaucoup et qui est comédienne, et je me dis mais c'est incroyable si je me retrouvais face à moi-même à l'âge de 20 ans, avec tous les espoirs que j'avais quand je suis rentrée au conservatoire, quand j'ai commencé ce métier, les espoirs en tant que comédienne, cette naïveté, cette innocence, cet enthousiasme qu'on a quand on est jeune, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais à cette jeune fille que j'étais ? Qu'est-ce que je lui dirais aujourd'hui pour la prévenir ? Qu'est-ce que je lui conseillerais sur ce métier de comédienne, sur le rapport avec les gens, le métier ? L'état d'esprit qu'il faut avoir, la manière dont il faut faire les choses en tant qu'artiste, parce qu'il y a mille manières d'être artiste, et on choisit celle qui nous convient le mieux. Donc voilà, et je me suis dit, mais voilà, mais bien sûr, elle a été enfermée pendant 30 ans, Camille. Elle a dû se poser un milliard de fois ce genre de questions. Et quand j'ai trouvé cet angle d'attaque-là, de cette Camille qui devait avoir une vie profonde, une vie très profonde, je me suis dit, elle a dû souvent repenser à elle, jeune, en se disant, mon Dieu. Et la pièce, je l'ai écrite très rapidement après.
Du coup, ça renforce forcément le lien avec votre propre mère. C'est vrai que c'est troublant de jouer justement, vous êtes deux comédiennes, mère-fille, vous jouez toutes les deux ensemble. Lola Zidi, alors je ne sais pas si vous êtes au courant pour le film qui vient de sortir sur Rodin avec Vincent Lindon. Vincent Lindon en fait raconte que pour vraiment se mettre dans la peau de Rodin, il s'est laissé pousser la barbe et il a passé des heures et des heures à travailler l'argile pour vraiment ressentir dans ses mains la douleur que ça pouvait représenter au-delà du plaisir. Comment est-ce que vous avez fait pour cette approche de la sculpture, pour apprivoiser le personnage ?
Bah, je me suis pas laissé pousser la barbe, du coup.
Encore heureux.
Parce que ça m'aurait pas servi à grand chose, mais j'ai rencontré une sculptrice qui travaille elle également la terre. Et je suis allée dans son atelier et j'ai travaillé avec elle. Et j'ai travaillé les sensations. J'allais pas pouvoir devenir Camille Claudel. C'était techniquement impossible. J'avais pas assez de temps pour que ça puisse se faire. Oula, il y a une colonie de vacances.
On est en veille.
J'avais pas assez de temps et je doute d'avoir le talent. Je suis même sûre que j'ai pas le talent de Camille pour ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que je puisse au moins avoir des sensations et savoir comment à peu près ça se passe. Et voilà, je me suis mise face à la terre et j'ai appris et j'ai découvert surtout. Parce que je suis vraiment pas très très manuelle.
D'accord, en plus. Oui, c'est marrant. Alors du coup, j'en parlais tout à l'heure, le décor, il est vraiment exceptionnel. On a envie de monter sur scène pour voir les statues de plus près, comme si on était dans un musée. C'était important pour vous de recréer vraiment cet univers de l'atelier.
En fait, ce que j'avais envie, moi, c'est d'avoir des épreuves, pas les statues terminées. De toute façon, ça aurait été ridicule parce que c'est difficile d'avoir les statues finales. Il y en a quelques-unes au musée Rodin, il y en a deux ou trois, mais elles sont petites. Donc, avoir les épreuves, c'est-à-dire vraiment d'avoir les, voilà, les,
le travail,
le travail
en train de se faire.
Ouais, les statues en travail. Ouais. Ça
et
qui
là,
est intéressant.
J'ai eu la grande chance d'avoir Francesco Passaniti, qui est un très très grand sculpteur, un très grand artiste qui m'a fait tout ce travail.
C'est magnifique, vraiment. Vous avez fait un choix, Lola Didi, c'est celui de passer par la danse, surtout à des moments qui peuvent représenter la fougue. C'est les moments en fait où elle évoque son amour pour Rodin.
Ouais. Alors, bah, moi, j'ai pas fait le choix. C'est Hélène qui a fait le choix.
D'accord.
Mais qui me plaît. en fait, l'idée, c'était de tout d'un coup que comme si la matière se transforme et devient vivante. Et puis pour symboliser aussi la sensualité, c'est sûr que la danse, entre guillemets, s'y prête. Mais l'idée, c'était pas tant de se transformer en danseuse. Hein. C'était vraiment tout d'un coup de symboliser le fait comme si Rodin venait et prenait part du corps de Camille et la sculpte et la modèle. Parce que avant d'être son élève et avant d'être sa maîtresse, ça a été son modèle et son inspiration et sa muse. Donc, c'était vraiment de symboliser ça, et sur la voix de Gérard en plus c'était idéal, enfin je pense.
Oui,
moi,
c'est-à-dire
en tout cas.
Ça permet de faire vivre la voix de Gérard et la sculpture en même temps. On a l'impression que la sculpture est vivante avec les lumières de Denis Koronski, c'est impressionnant.
Oui, ouais, qu'elle s'anime.
Ouais, ouais, ouais.
Alors je ne sais pas si vous êtes au courant toutes les deux, donc Camille Claudel est morte évidemment misérablement internée dans un asile. Le 11 juin dernier, en Touraine, a été vendue aux enchères pour un peu plus d'1,4 million d'euros, la valse. Donc c'est une de ces sculptures qui représente un couple enlacé qui danse une valse. C'est un record pour un bronze. Le talent, on n'y a pas le droit maintenant en fait. Ça vient avec le temps.
Bon, bah, y a eu beaucoup d'artistes peintres comme ça qui ont été reconnus après.
C'est systématique.
Non, je dis pas que c'est systématique. Heureusement, il y en a qui arrivent à avoir le succès de leur vivant. Ce qui a été le cas de Picasso, par exemple, et de plein d'autres. Peut-être qu'il y a des artistes un petit peu maudits. C'est vrai que c'est troublant de se dire de ne pas profiter de cette reconnaissance et du bien-être que ça peut procurer, même matériellement, alors qu'on se donne tant de mal. Ça fait de la peine. Aujourd'hui, quand je rentre sur scène dans Camille Claudel et quand j'ai écrit la pièce, j'ai vraiment repensé à tout ça et je me suis dit que c'est des gens qu'il ne faut pas oublier. C'est une femme qu'il ne faut pas oublier, c'est une icône.
Oui, parce qu'au-delà de l'artiste, vous rendez hommage à la femme. Et c'est la femme qu'on découvre.
On rend hommage à cette femme, Camille Claudel, qui pour moi est emblématique, aux femmes en général. Mais sans pour autant pousser le féminisme, hein, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est simplement que c'était une artiste exemplaire et faire ce qu'elle a fait avec ses mains. Mais qui arrive à faire ça, quoi ? C'est incroyable, c'est un génie. Mais dans cette famille, il y avait deux génies, il y avait elle et Paul.
Enfin, elle, c'est un génie.
Et lui aussi, c'était un génie. Il y avait deux génies dans cette famille, vraiment. Et on a laissé quand même la place belle plus à Paul, qui était plus politiquement correct.
Et
Camille avait un caractère. Elle était rebelle, elle était effrontée, elle disait ce qu'elle pensait. Elle était très entière, très intègre. C'est une femme absolument exceptionnelle. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est un spectacle exceptionnel et très poétique.
Vraiment, merci beaucoup.
Donc, vous jouez tous les jours à 17h15 au Théâtre du Roi René. Je vous remercie.
On a beaucoup de succès. Il faut réserver à l'avance.
Vous êtes plein.
Oui, on est plein aujourd'hui.
Dépêchez-vous, appelez le Théâtre du Roi René et réservez pour aller voir ce magnifique spectacle.
Merci
Stivelle.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir. Alors maintenant, je vais vous parler d'un spectacle qui fait froid dans le dos. Il s'agit de Le captif, l'enfant du placard. C'est une pièce d'Olivier Souris qui est mise en scène par Frédéric Page avec un seul comédien qui est Hugo Millard à l'Espace Roseau à 16h05. Alors il faut savoir que dès notre arrivée dans le théâtre, on est vraiment plongé dans le bain. Moi, on m'a remis un dossier de presse qui se présentait sous la forme d'un journal d'information, donc le genre de journal quotidien qu'on peut acheter tous les jours en kiosque, et qui là, en plus de la présentation du metteur en scène, du comédien, de l'éclairagiste, regroupe des extraits de faits divers et réels d'enfants qui furent séquestrés et dont les histoires sont parues autant dans Le Figaro que dans Le Parisien ou encore dans The Inquisiteur. ici sur scène. En fait, il s'agit de la dernière heure de captivité d'un enfant qui ne connaît même pas son sexe et donc du coup qui jongle entre deux identités. Alors parfois il s'appelle Cléo, à d'autres moments il s'appelle Clara. C'est donc un seul en scène interprété par Hugo Millard qui peut paraître amusant au premier abord parce qu'on semble assister à un enfant qui joue, qui s'amuse et qui du coup ne semble pas forcément malheureux. Seulement le public semble ressentir une forme de malaise. Alors l'enfant se raconte des histoires, il s'invente des personnages, des amis, il essaye vraiment de se créer un autre quotidien, une autre vie pour pallier à la solitude et aussi à l'oubli de l'horreur de l'enfermement, ce qui est quand même terrible. Et ce qui est fort, c'est que le comédien Hugo Millard, il parvient vraiment à noyer le poisson entre fantasme et réalité, tant il met de cœur à l'ouvrage. On est vraiment troublé parce qu'on ne sait plus trop où on est. Et la captivité, en fait, elle est davantage perçue à travers les jeux d'éclairage d'Olivier Oudiou, qui parvient à restreindre l'espace quand il le faut et à nous confronter à d'autres moments, à vraiment ces instants de survie. Voilà, alors sur ces notes de gaieté, je vous souhaite un bon festival.